Vous écoutez On lit pour vous.
Un mariage improbable entre les enquêtes et la prévention. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 6 mars 2026 dans Le Devoir. Depuis plusieurs années, le travail des policiers évolue pour tenter de répondre à différents besoins et aux nouvelles réalités du terrain. Le Devoir vous présente une initiative du service de police de la Ville de Montréal, SPVM, portée par son directeur Fadi Daguerre, pour mieux intervenir auprès des jeunes impliqués dans la violence armée. Les noms de jeunes criminels s'enchaînent. Des adolescents impliqués dans des vols de véhicules, des vols qualifiés avec armes à feu, des extorsions. En visioconférence, les équipes du SPVM des quatre coins de la ville font le suivi de leurs dossiers respectifs. On a mis un tel en filature, tel autre a commis une violation de conditions, on a rencontré les parents de celui-ci, celui-là est prêt à collaborer. Dans son bureau du Centre opérationnel Nord, le commandant David Paradis mène la réunion bimensuelle qui réunit ses collègues des collectifs, une stratégie mise sur pied en 2023 en réponse à la vague de violences armées qui secouait la métropole. C'est qu'ils ont vu un nouveau profil de jeunes criminels se dessiner, ce qui les a forcés à repenser leur façon de faire. On constate qu'il y a plus de jeunes de 13, 14, 15 ans qu'on arrête en possession d'armes à feu dans des véhicules volés, explique le commandant en marge de la réunion. Ce n'était pas quelque chose qui était possible avant, parce qu'ils n'avaient pas les contacts criminels pour avoir accès à des armes et voler des véhicules. Mais maintenant, ils ont un accès différent qui le permet. Cet accès, sans surprise, passe par les réseaux sociaux où les criminels vont recruter une main-d'œuvre bon marché dans un bassin beaucoup plus large qu'avant. On parle désormais de jeunes qui réussissent bien à l'école, qui font du sport, qui sont bien encadrés par leurs parents. Des adolescents sans histoire qui sont attirés par l'appât du gain rapide. Même s'ils n'ont pas d'armes ou de véhicules, ils se font offrir des contrats clés en main. On leur dit « Il y a quelqu'un qui va t'attendre dans l'auto. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller tirer dans la vitrine de ce commerce ou d'allumer le feu à telle adresse. » Ils croient faire un coup d'argent facile, mais ils ne s'en tirent jamais à si bon prix, rappelle le commandant Paradis. Plusieurs ne verront jamais la couleur de l'argent, et ils se retrouvent, plus tôt que tard, pris au piège des groupes criminels. Il y a une grosse part d'exploitation là-dedans. Ils embarquent dans un engrenage un peu comme on le voit en proxénétisme. Ce sont des jeunes facilement manipulables et il y a une forme de menace qui va faire qu'ils vont se sentir obligés de continuer à commettre des délits qu'ils ne voulaient pas faire. Nouvelle approche. C'est pour des jeunes délinquants émergents comme eux que la stratégie des collectifs prend tout son sens. Dès que ceux-ci obtiennent des renseignements sur un jeune délinquant, l'équipe tente de trouver le meilleur levier pour le faire sortir du milieu avant qu'il ne s'y incruste. Notre optique, ce n'est plus juste de dire « il y a quelqu'un qui commet un acte violent, on va l'arrêter, puis ça s'arrête là ». Ce n'est plus ça. On essaie vraiment de prendre un pas de recul, d'apporter du soutien et d'assurer des suivis. C'est une nouvelle approche et, jusqu'à maintenant, les résultats sont vraiment probants. Le commandant parle d'un « mariage improbable entre les enquêtes et la prévention » qui a rapidement marché, les deux parties étant en mesure de voir les résultats d'une telle collaboration. Si, par exemple, les policiers arrêtent un jeune en possession d'une arme, celui-ci rencontrera les enquêteurs et des accusations seront portées contre lui. Ça, c'est la partie plus traditionnelle. Mais là où on innove, c'est que, dans les heures suivant son arrestation, un agent de prévention ira lui rendre visite. Historiquement, on faisait beaucoup de prévention générale dans les écoles, explique le commandant Paradis. Maintenant, on a des agents de prévention ciblés qui vont agir directement auprès des individus qui sont impliqués. On y va de façon personnalisée pour essayer d'aider le jeune et sa famille directement. Prise de conscience. Les agents de prévention interviennent aussi auprès de jeunes sur lesquels les policiers ont des renseignements, mais pas assez de preuves pour lancer une poursuite, explique l'agent Gabriel Couture. Avant, si on manquait de preuves, ça restait là. Là, on va rencontrer le jeune pour éviter qu'il reproduise ces gestes-là. On va lui dire « Regarde, ton nom circule. On a des renseignements disant que tu aurais commis un crime relié au phénomène de la violence armée. Fais attention. C'est vraiment de le sensibiliser, de lui montrer qu'il y a des conséquences, même s'il est mineur. Une bonne partie de son travail consiste justement à déconstruire ce que les jeunes se font vendre comme étant un beau rêve lucratif sans conséquences. Il a vu des jeunes devenir blêmes en prenant conscience des risques qu'ils avaient pris, auxquels ils n'avaient jamais même pensé. L'agent Couture travaille aussi avec ceux que la police appelle les réguliers, ceux qui prennent des contrats toutes les semaines. Avec eux, il adapte son discours pour essayer de les raccrocher à quelque chose de positif, leur répétant qu'il est encore temps de prendre un autre chemin. Dans tous les cas, dit-il, les parents font partie de l'équation. La plupart de ceux qu'ils rencontrent sont de bons parents, présents, surpris par l'implication de leur enfant. Ceux qui refusent de voir la réalité lors du premier contact vont parfois les rappeler des semaines, voire des mois plus tard, se réjouit-il. On devient un point de chute, une personne de confiance pour les parents. C'était un mariage improbable entre les enquêtes et la prévention. Un texte de Jessica Nadeau paru le 6 mars 2026 dans Le Devoir.
Le choix de pompes à insuline se multiplie, mais l'accès demeure un enjeu. Un texte de Catherine Desautels, publié le 15 janvier 2025 dans La Presse. Les options d'administration d'insuline pour les personnes vivant avec le diabète de type 1 se sont développées à vitesse grand V au cours des dernières années. Or, même si les pompes semi-automatiques réduisent les risques de complications et simplifient la vie des patients, leur accessibilité demeure un enjeu au Québec, puisqu'elles ne sont pas remboursées pour la plupart des adultes. Catherine Desautels, La Presse canadienne. Le Québec est la seule province canadienne à ne pas rembourser les pompes à insuline pour les adultes atteints de diabète de type 1. Depuis 2011, l'achat d'une pompe à insuline et autres fournitures peut être remboursé avec le programme québécois d'accès aux pompes à insuline. Mais seuls les mineurs sont admis au programme. À l'âge de 18 ans, ils peuvent continuer d'y participer, tandis que ceux qui sont diagnostiqués à l'âge adulte n'ont pas droit au remboursement. Les choses ont beaucoup changé dans les 30 dernières années. Il y a de plus en plus de gens qui développent cette forme de diabète tard, souligne le docteur Rémi Rabassa-Lauré, médecin et chercheur reconnu dans son domaine. Les pompes à insuline sont chères. Les personnes qui ont droit au remboursement au Québec peuvent recevoir jusqu'à 6 300 $ par pompe, montant auquel s'ajoute jusqu'à 4 000 $ pour les autres fournitures, comme les cathéters. Une révolution depuis l'insuline. Il existe 4 pompes à insuline présentement sur le marché, indique le docteur Rabassa Loret. Santé Canada vient d'ailleurs tout juste d'approuver l'utilisation du système automatisé d'administration d'insuline MyLife Loop avec le système d'exploitation iOS d'iPhone et le capteur Freestyle Libre 3 Plus d'Abbott. L'utilisation de MyLife Loop sur les téléphones intelligents Android avait été lancé en mars 2025, ce qui donne désormais l'option aux patients pour 2 modèles de cellulaire. Il s'agit du premier système automatisé d'administration d'insuline au Canada, compatible avec 2 systèmes de surveillance du glucose pour les personnes vivant avec le diabète de type 1. Le fait d'avoir plus de choix, c'est une révolution. Plus de solutions, c'est mieux pour les patients, définitivement. Tranche le Dr Rabassa Loret, également président du Conseil professionnel de Diabète Québec. Ces pompes semi-automatiques, on considère que c'est une révolution 100 ans après la découverte de l'insuline, au sens où les taux de sucre hauts sont mauvais pour les yeux, les reins, les nerfs, le cœur, le cerveau, alouette. Les taux de sucre bas sont très désagréables parce que ça donne des symptômes. Ça peut aller vers des malaises. Et ces pompes semi-automatiques s'ajustent en permanence au niveau de la glycémie, commente l'expert. Il indique qu'en Ontario, plus de diabétiques utilisent les pompes semi-automatiques puisqu'elles sont remboursées par la province. Selon le registre Better, un grand projet de recherche canadien qui collecte des données auprès des personnes vivant avec le diabète de type 1, on est passé de 30 % des patients qui utilisaient une pompe en 2019 à plus de la moitié présentement. Et pour les petits capteurs, on est passé d'un peu plus de 50 % à quasiment 95 % des gens qui ont un capteur. Donc, on sent les choses monter de façon très importante. Et nous, on voit très bien dans nos données que dans les provinces qui couvrent mieux les pompes, comme l'Ontario, il y a beaucoup plus de gens qui font ce choix, précise le Dr Rabassa Loret. Il soutient qu'il est difficile de convaincre les décideurs politiques québécois d'investir là-dedans, puisque le retour de l'investissement se ferait ressentir dans plusieurs années. Des avantages et des inconvénients. Une pompe à insuline va injecter des doses d'insuline sous la peau de façon automatique sans avoir à utiliser de seringue. Son réservoir est relié à un petit cathéter que l'on implante la plupart du temps dans le ventre ou la cuisse. L'un des enjeux pour certaines personnes est d'avoir quelque chose en permanence sur sa peau. Ça rend la maladie visible, résume le Dr Rabassa Loret. Certains patients sont préoccupés quant à la façon d'aborder le sujet dans l'intimité, par exemple avec un nouveau partenaire. Sur le plan médical, les avantages sont clairs. Les personnes diabétiques qui utilisent ce genre de pompe ont moins d'hyperglycémie et moins d'hypoglycémie. Les nouvelles pompes semi-automatiques réduisent grandement le risque de complications très dramatiques, souligne le Dr Rabassa Loret. Il y a un risque de malaise au quotidien très inférieur, dit-il. C'est plus efficace. Il y a moins de complications. C'est plus sûr. Il y a moins de malaise, moins de risque de tomber, de se blesser, d'avoir des problèmes, mais aussi moins de charge mentale. La charge mentale reste toutefois présente, même si elle est réduite. Les diabétiques de type 1 doivent prendre jusqu'à 300 décisions liées à leur santé chaque jour. Selon PERSE-DT1, le principal organisme mondial de recherche et de défense des droits sur le diabète de type 1. Au Canada, 300 000 personnes sont atteintes de diabète de type 1 et on s'attend à ce que ce nombre grimpe à 455 000 d'ici 2040. Entre 2000 et 2022, le nombre de nouveaux cas par an a augmenté de 34 %. La couverture en santé de la presse canadienne est soutenue par un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La presse canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique. C'était « Le choix de pompes à insuline se multiplie, mais l'accès demeure un enjeu. » Un texte de Catherine Desautels, publié le 15 janvier 2025 dans La Presse.
Déconnexion. 53 % des employés travaillent à distance, en plus de leurs heures normales. Un texte de Lia Lévesque, publié le 16 décembre 2026 sur le site de Novo. Plus de la moitié des employés travaillent à distance, en dehors de leurs heures normales de travail, pour répondre à des courriels, par exemple, ou faire avancer un dossier. Le phénomène touche davantage les universitaires et les plus jeunes. Un sondage léger, commandé par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, indique que ce sont 53 % des travailleurs qui rapportent travailler très souvent, assez souvent ou peu souvent, toutes les réponses additionnées, en dehors de leurs heures de travail régulières. Chez ceux qui ont une formation universitaire, la proportion grimpe à 71 % chez ceux qui ont une formation collégiale à 52 % et chez ceux qui ont une formation primaire ou secondaire à 34 %. Le sondage fait aussi ressortir une différence selon l'âge. 66 % des travailleurs de 18 à 34 ans rapportent travailler ainsi à distance en dehors de leurs heures normales de travail, 53 % des travailleurs de 35 à 54 ans et 35 % des 55 ans et plus. Une loi ou pas? Si en Ontario, les employeurs sont tenus par une loi d'adopter une politique de déconnexion, ce n'est pas le cas au Québec. Est-ce qu'un jour, il y aura une telle exigence au Québec? Peut-être. On n'est pas contre. Mais est-ce qu'on doit attendre d'avoir une telle législation? La réponse pour nous, elle est claire. C'est non, a répondu Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. L'Ordre croit plutôt à l'autorégulation. C'est difficile d'avoir une norme universelle pour tous les employeurs qui ont des réalités très différentes. Avantage d'une politique. Selon Mme Poirier, les employeurs y trouveraient leur avantage tout comme les employés. C'est vraiment un message fort envoyé aux employés en disant « On constate qu'on a plusieurs plateformes, il y a cette hyperconnectivité, on la vit. » Pour nous, c'est important la conciliation, travail-vie personnelle, votre équilibre. Alors pourquoi nous, on ne fait pas un cadre? Même invité à établir ce cadre-là avec les employés, avec des discussions sur ce dont ça pourrait avoir l'air chez nous, étant donné nos réalités opérationnelles. Je pense que ça envoie un message fort du souci du bien-être des employés. Puis, c'est le genre de message qui fait que les travailleurs ont le goût de rester pour une organisation comme celle-là, explique Mme Poirier. L'Ordre a lui-même développé un modèle de politique de déconnexion dont les employeurs peuvent s'inspirer. Il rappelle qu'il y a des risques associés à l'hyperconnectivité au travail, tant pour la santé mentale que physique. Stress, hypervigilance, difficultés de concentration, épuisement et autres. Environ 16 % des travailleurs rapportent travailler pour un employeur qui a mis en place une telle politique de déconnexion ou bien des mécanismes en la matière. Mais, selon des conseillers en ressources humaines agréés consultés par le biais d'une enquête maison de l'Ordre, la proportion avoisinerait plutôt les 21 %, comparativement à 7 % en 2018. C'est en croissance. Je pense qu'on va voir ces pourcentages-là augmenter au cours des prochaines années parce que le sujet, bien, on l'amène de différentes façons à différentes tribunes, a conclu Mme Poirier. Le sondage web a été réalisé auprès de 582 personnes du 21 au 24 novembre. Un échantillon probabiliste similaire aurait une marge d'erreur de 4 % 19 fois sur 20. C'était Déconnexion, 53 % des employés travaillent à distance en plus de leurs heures normales, un texte de Lia Lévesque, publié le 16 décembre 2026 sur le site de Novo.
Entre pillage et pragmatisme, où se situe la limite avec l'intelligence artificielle? En sous-titre, si son usage nuit à un artiste, à un créateur ou à un artisan de ma communauté, je m'abstiendrai. Un texte signé Brian Perrault, qui est auteur, texte publié dans Le Devoir du 11 mars 2026. Je suis un écrivain tiraillé entre l'indignation et le réalisme. Je reçois parfois des messages qui me font réfléchir. Récemment, un confrère illustrateur et dont je suis un grand admirateur m'a écrit pour me dire, sans détour, que mon utilisation de l'intelligence artificielle générative sur les réseaux sociaux contribuait à banaliser le plus grand pillage d'œuvres de l'histoire. Son argument? Les modèles d'intelligence artificielle sont nourris de millions de portfolios d'artistes, souvent sans leur consentement. Un portfolio, c'est bien plus qu'une pile d'images. C'est notre savoir-faire, notre signature graphique, notre ADN d'artiste, m'a-t-il lancé. Il a raison, bien sûr. L'intelligence artificielle générative repose sur une exploitation massive de créations existantes, souvent protégées par le droit d'auteur. Pour les illustrateurs, les designers, les artistes visuels, c'est une menace directe. Des éditeurs, des agences et même des institutions remplacent désormais des commandes par des images générées à partir de leur propre travail. Résultat? Une baisse de 30 % des revenus pour certains, de jeunes diplômés qui se réorientent, faute de débouchés, et une précarisation accélérée de toute une profession. Je comprends cette colère. Moi aussi, j'ai été volé. 43 de mes livres par Meta, pour être précis. Alors, suis-je incohérent en utilisant l'intelligence artificielle tout en dénonçant ses pratiques? Peut-être, mais la vie est rarement noire ou blanche. Je reste convaincu que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais la sensibilité humaine. Aucune intelligence artificielle ne pourra jamais capturer la complexité sociale et émotive de l'être humain. Les mêmes Cassandre annonçaient la mort du livre papier, du cinéma, de la peinture, et pourtant, nous sommes toujours là. L'intelligence artificielle est un outil, un jeu, une mode, comme Facebook, comme Instagram, comme toutes ces plateformes qui ont révolutionné et souvent sclérosé notre rapport à la culture. Les bombes ont déjà détruit la ville, ai-je répondu à mon confrère. nous n'avons pas le choix. Il faut composer avec cette réalité. Je ne suis pas un apôtre de la technologie. Je l'utilise pour des choses sans importance, des publications éphémères, des tests graphiques. Jamais je ne confierai à une machine la création d'une couverture de roman, d'une illustration pour un livre jeunesse ou d'une œuvre qui demande une âme. Je n'ai pas l'intention de remplacer un artisan de ma nation par un algorithme et cette ligne, je ne la franchirai pas. Mon interlocuteur m'a reproché mon manque de solidarité. En utilisant l'IA, même pour des futilités, tu envoies un mauvais signal. Je le comprends. Mais où s'arrête la cohérence? Si je boycotte l'intelligence artificielle, dois-je aussi quitter Facebook, dont le propriétaire a volé des œuvres pour entraîner ses modèles? Dois-je renoncer à tous les outils numériques qui, d'une manière ou d'une autre, exploitent le travail des autres? Je crois fermement à la régulation, à la transparence et à l'équité dans la rémunération des artistes dont les créations sont utilisées pour former ces systèmes. Mais je refuse le militantisme stérile, les leçons de morale, les chapelles idéologiques. Je ne suis pas un donneur de leçons et je ne le deviendrai pas. Ce débat révèle quelque chose de plus profond, notre rapport à la création, à la valeur, à l'éthique. L'art survivra car il est l'expression même de l'humanité. Mais que restera-t-il si les artistes, faute de moyens, disparaissent? Peut-être suis-je naïf, optimiste. Ce n'est peut-être pas très malin, mais je pense que, comme toutes les révolutions technologiques, l'intelligence artificielle finira par se banaliser entre le vice, l'argent et le contrôle social, à l'instar d'Internet, un reflet de notre peu d'humanité. En attendant, je continuerai à utiliser cet outil avec prudence, en gardant à l'esprit une question simple. Est-ce que cela nuit à un artiste, à un artisan, à un créateur de ma communauté? Si la réponse est oui, je m'abstiendrai. Sinon, je jouerai avec, comme on joue avec le feu, en espérant de ne pas me brûler. Fin de ce texte de Libre Opinion, signé Brian Perrault, titré « Entre pillage et pragmatisme, où se situe la limite avec l'intelligence artificielle », texte publié dans Le Devoir du 11 mars 2026.